Actualité des Alpes du Sud avec un corps retrouvé samedi soir dans la Durance à Châteauroux-les-Alpes.
Selon le parquet de Gap, l'homme de 65 ans résidant dans la commune se serait donné la mort. Une autopsie a été diligentée. Un cycliste a perdu la vie hier à Gréoux-les-Bains. L'homme a été mortellement percuté par une voiture. Le refuge de l'Alpe à Villard-d'Arène, évacué hier en fin d'après-midi, la gardienne a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone.
Jeux olympiques d'hiver 2030, que va devenir la candidature des Alpes françaises?
Alors que le comité international olympique doit se prononcer mercredi, toujours aucune garantie française en raison du contexte politique. Le porte-parole du CIO, Marc Adams, a admis hier que la situation rendait les choses un peu plus compliqué. L'inquiétude plane du côté de Renaud Muselier, président de la région Sud. Les Alpes du Sud qui peuvent déjà se satisfaire d'avoir accueilli la semaine dernière le Tour de France et la grande messe du vélo pourrait bien choisir de revenir l'année prochaine. En tout cas, Christian Prudhomme, le patron du Tour, y réfléchit.
Direction Sisteron, où le nouvel Alcazar sera plus grand et plus moderne.
La première pierre du chantier a été posée en fin de semaine dernière. La salle fera environ 600 mètres carrés avec une scène escamotable, mais aussi une tribune télescopique de 314 places assises.
Et puis, Alpes, un reportage au cœur du jardin du Lautaret.
Une pépite à Villard-d'Arène où 20 000 personnes se pressent chaque année pour y découvrir l'un des plus anciens jardins botaniques alpins d'Europe et ses 2000 espèces de fleurs de montagne, le jardin du Lautaret qui célébrera aujourd'hui son prix de l'art du jardin. Météo.
Avec le retour d'un temps plus clément sur les Alpes du Sud, avec encore quand même beaucoup de nuages près de l'Isère et de la Savoie, du soleil ailleurs, avec des températures qui retrouvent des valeurs estivales, 27 à 32 pour les Hautes-Alpes aujourd'hui et 29 à 33 les maxis pour les Alpes de Haute-Provence. À la une de l'actualité, ce corps découvert dans la Durance samedi soir.
Ce sont des moniteurs de rafting qui ont fait la macabre découverte à Châteauroux-les-Alpes. Selon le parquet de Gap, il s'agit d'un homme de 65 ans résident sur la commune. Les premières investigations permettent de privilégier la thèse du suicide. Le sexagénaire se serait jeté à l'eau quelques centaines de mètres avant la zone de découverte de son corps, sans qu'il se soit écoulé beaucoup de temps entre ce geste et la découverte, précise la procureure Marion Lozac-Meur. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la communauté de brigade de gendarmerie d'Embrun. Une autopsie va être diligentée.
Un cycliste perd la vie dans un accident de la route à Gréoux-les-Bains.
Il s'est produit ce dimanche après-midi sur la départementale 8, un axe reliant la commune à Valensole. La victime a été percutée par une voiture malgré l'intervention d'une dizaine de pompiers épaulés par le SMUR 04 à bord d'un hélicoptère. L'homme a succombé à ses blessures. Des dépistages d'alcoolémie et toxicomanie ont été menés sur le conducteur du véhicule. Ils sont revenus négatifs. Une enquête est ouverte. Autre accident survenu un peu plus tôt ce dimanche dans les Alpes d'Haute-Provence, entre une moto et une voiture sur la départementale 4085 à Castellane. Un homme de 43 ans grièvement blessé à la tête et au bassin a été évacué sur le centre hospitalier de Nice. Les pompiers appellent les automobilistes à être extrêmement vigilant cette période estivale où les motocyclistes sont nombreux, notamment sur les routes des Gorges du Verdon.
Le refuge de l'Alpe à Villard-d'Arène, évacué hier en fin d'après-midi après une intoxication au monoxyde de carbone.
Les 26 usagers ont été rapatriés vers le chalet de Chamoissière après que la gardienne du refuge n'était prise en charge pour une intoxication au monoxyde de carbone. Elle a fait un malaise après s'être rendue dans la cave où se trouve le groupe électrogène. Le système de ventilation aurait été défaillant. Deux pompiers dont une infirmière ont été héliportés sur place. La gardienne a été évacuée sur le centre hospitalier de Briançon.
La direction vos routes avec des travaux de marquage routier qui vont perturber la circulation dans le col de Montgenèvre en ce début de semaine.
Un chantier programmé sur la nationale 94 entre la France et l'Italie dans la nuit de ce lundi à mardi de 23h à 6h du matin avec plusieurs coupures totales de la circulation qui seront limitées à 1h. Le temps de ces coupures, les véhicules seront stockés de part et d'autre de la zone des travaux. Aucune déviation locale ne peut être mise en place, explique la DIRMED. Des travaux seront également entrepris sur la nationale 85 au nord de Chauffaillé durant la nuit de mardi à mercredi de 22h à 6h du matin. Il s'agit de mener la démolition du canal de la Bachasse sur la commune. Une déviation sera mise en place entre le Moti et la Guinguette via le Glésil pour tous les véhicules n'excédant pas 19 tonnes. Pour les poids lourds, par contre, ils seront stockés au maximum 30 minutes. Quant aux riverains, ils seront autorisés à circuler.
Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 et cette question. Que va devenir la candidature des Alpes françaises?
La 142e session du CIO, Comité international olympique, est censée attribuer officiellement ce mercredi les JO d'hiver à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Mais la situation politique actuelle en France ne permet pas d'obtenir deux documents exigés par l'organisation, la garantie de livraison des Jeux qui doit être signée par le Premier ministre et la contribution de partenariat au budget d'organisation entre l'État et les deux régions. Interrogé à ce sujet hier, le porte-parole du CIO, Marc Adams, a admis que la situation politique rendait les choses un peu plus compliquées. L'inquiétude est aussi palpable du côté de Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ça avance, il y a un problème de garantie signé par le Premier ministre qui ne peut pas se faire compte tenu de la situation politique. Et donc ça naturellement, ça m'inquiète. Mais il y a la volonté de CIO de trouver une solution et il y a la capacité du président de la République de s'engager dans le cadre d'une démarche pour cet événement. Donc je pense qu'on va trouver une issue qui soit acceptable pour tous et qui fera en sorte qu'on ne sera pas ridicule, ni le CIO, ni la France, au moment où on reçoit le monde entier pour les Jeux Olympiques de Paris. Si on ne les a pas, ben on arrête et on perd une vision du développement, notamment ferroviaire sur, par exemple, les Hautes-Alpes. Si on les a, et on doit charger pour valider des financements complémentaires pour l'organisation générale et pour les infrastructures. Et 2030, c'est demain. Donc on n'a pas le temps. Donc c'est oui, c'est stop ou encore.
Le CIO qui pourrait décider cette semaine de reporter le vote lors d'une prochaine session extraordinaire en automne prochain si aucun des deux documents n'est livré d'ici mercredi. D'ici là, les Alpes du Sud peuvent se réconforter avec cette déclaration. Le Tour de France pourrait peut-être revenir l'année prochaine. Après Briançon, le Dévoluy, Gap, Barcelonnette et Embrun à la fête pour la Grande Boucle 2024, Christian Prudhomme, le patron du Tour, se dit attaché aux terres alpines.
Les deux dernières étapes, à travers les Hautes-Alpes, à travers les Alpes de Provence, étaient tout simplement splendides. Dans la voiture, derrière les échappées hier, quand on descend, on voit le lac de Serponçon devant nous, on descend, il y a le pont de Savine, c'est d'une beauté absolue. Et avec ces eaux cristallines qui sont incroyables, enfin bon, qui donnent le sourire à absolument tout le monde. Les cols, les pourcentages, les longs cols, les pourcentages très sévères, et puis la beauté des paysages font qu'on vient souvent et que c'est en effet une histoire d'amour.
Si je vous entends, le territoire des Hautes-Alpes a tout pour réaccueillir le Tour de France l'an prochain.
Je vais pas m'inscrire là-dedans et vous aurez la réponse le 29 octobre lors de la présentation du parcours des Tours de France masculin et féminin de 2025. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on s'inscrit dans la durée.
Le Tour de France 2025, hein, prenez rendez-vous du samedi 5 juillet au dimanche 27 juillet.
L'actualité qui nous emmène à Sisteron, où la première pierre du nouvel Alcazar a été posée en fin de semaine dernière.
Et c'est un événement pour la ville, puisque la salle de spectacle était devenue obsolète et représentait un gouffre financier en matière de chauffage. La future structure devrait donc être plus moderne, avec une pompe à chaleur géothermique et plus grande. Le nouvel Alcazar présentera une surface de 1145 m² d'emprise au sol. La salle fera environ 600 m² avec une scène escamotable de 92 m², mais aussi une tribune télescopique de 314 places assises. Daniel Spagnou, le maire de Sisteron.
La capacité sera de 40% plus importante qu'aujourd'hui. Surtout, on va en faire presque un petit palais des congrès, un peu comme à Digne. C'est un peu le modèle en plus petit. On se sert d'ailleurs pas mal de ce qui a été fait à Digne, qui est une réussite. Moi, ce que je voudrais, c'est organiser des colloques qui amènent en même temps des gens qui apportent un plus économique aux commerçants, aux artisans de la ville de Sisteron. Sisteron mérite quand même une ville comme nous avec un prestige qu'on dégage avec la notoriété qu'on a de partout. Et il était absolument nécessaire de faire une nouvelle belle salle. L'Alcazar nous a rendu de grands services. On l'avait refait il y a 25 ans entièrement. Et aujourd'hui, eh bien, il était trop petit, la sécurité n'est plus assurée convenablement. Le chauffage nous coûte les yeux de la tête. On fait un nouvel Alcazar moderne, comme on fait maintenant. Et surtout, avec de grands parkings devant, parce que quand on fait une salle comme ça, eh bien, la première des choses à faire, ce sont les parkings.
Et la fin des travaux est prévue pour septembre 2025. Le coût total s'élève à plus de 4 600 000 euros subventionnés par la région, l'État et le département. Si l'investissement communal représente plus de 3 400 000 euros, un legs de 2 millions de Madame Lédé, professeure sisteronaise, permet à la ville de mettre finalement sur la table seulement 1 400 000 euros. D'ailleurs, le nouvel Alcazar devrait prendre le nom d'espace Lédé lors de son inauguration officielle en hommage à cette professeure.
Le Jardin du Lautaret célèbre ce lundi le prix de l'art du jardin.
Un prix qui lui a été décerné le 15 mai dernier par la Fondation Signature en reconnaissance de son travail de valorisation de ses collections botaniques. Installé à Villard d'Arène, ce jardin, sous la tutelle de l'Université Grenoble-Alpes et du CNRS, est labellisé depuis 2005 par le ministère de la Culture comme jardin remarquable. Immersion au cœur de ce trésor pour les botanistes avec Thibaut Durand et Aurore Valory.
Ben là, ce sont des plantes dans un massif de plantes nord-américaines, donc essentiellement des rocheuses. Et là, par exemple, nous avons des ancolies, différentes espèces d'ancolies américaines.
Roland Douzet est intarissable sur les particularités de ce jardin qu'il connaît tant. Ce botaniste est aussi le directeur adjoint du Jardin du Lautaret.
Tous les plantes du jardin, on les connaît, heureusement, puisque on sait ce qu'on introduit. Après, il y a aussi le connaissance de la flore locale aussi, qui est un autre aspect du travail ici. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps et qui aussi fait partie du travail aussi, de la connaissance du patrimoine naturel aussi local.
Le Jardin du Lautaret existe en effet depuis plus de 100 ans. C'est l'un des plus anciens jardins botaniques alpins d'Europe. Situé à 2100 mètres d'altitude dans le col du Lautaret, cet espace de 2 hectares abrite une vaste collection de 2000 espèces de fleurs des montagnes du monde. Si le lieu est ouvert au public durant les 3 mois d'été, une douzaine de personnes y travaillent à l'année, comme Sarah Grandjean, jardinière paysagiste, un métier qu'elle exerce elle aussi avec passion.
Il y a beaucoup d'amour dans notre travail. On regarde l'état de toutes les plantes tous les jours. On regarde s'ils vont bien, s'ils ont besoin quelque chose, de l'eau, de nettoyage. C'est des êtres vivants quand même, les plantes. Et du coup, on prend soin d'eux comme si c'était un animal ou un enfant. Suivant aux plantes, est-ce que ça va bien? Oh, t'es mignon! Il y a pas mal de conversations et il y a carrément une connexion, je trouve, entre les plantes et les humains tous les jours. Je trouve extraordinaire qu'on ait cette collection de plantes ici, dans un milieu alpin comme ça, avec les montagnes tout autour.
Un jardin face au glacier de la Mèche qui a donc été primé pour son travail face à une cinquantaine de postulants, souligne Céline Boudard, chargée de communication et du développement.
On a appuyé notre candidature sur le fait qu'on faisait beaucoup de médiations scientifiques, culturelles, artistiques, l'été, vers nos visiteurs. Par exemple, on fait des visites guidées botaniques, mais on organise également des visites des coulisses scientifiques, des concerts, des spectacles, des balades contées, plein d'activités. Et je pense que ce site incroyable des Hautes-Alpes où nous sommes et notre accueil de la recherche scientifique et de travail avec une trentaine d'équipes scientifiques tous les ans et la façon qu'on a de le raconter aux visiteurs a beaucoup joué dans l'obtention de ce prix.
Et ce sont ainsi 20 000 personnes qui se pressent chaque année dans les allées de ce jardin d'exception.
Merci Aurore, le Jardin du Lautaret qui est ouvert jusqu'au premier week-end de septembre.
Un mot de sport pour finir et Sébastien Ogier sur le podium du rallye de Lettonie.
Deuxième, un retour gagnant pour l'octuple champion du monde. Le Gapensé termine donc second de cette manche derrière l'intouchable Kalle Rovanperä. Il y a un mois, Sébastien Ogier avait dû renoncer au rallye de Pologne après un accident survenu pendant les reconnaissances. Et puis en hockey, c'est tout bon pour les Rapaces de Gap. L'équipe a été validée par la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion. Elle sera donc bien en Magnus la saison prochaine, tout comme les Diables Rouges de Briançon.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.